souvenez-vous des images qui avaient envahi les médias en ces jours de mai 2020. De cet homme noir au sol, qui étouffait sous le genou d'un policier appuyé sur sa gorge. « Je ne peux pas respirer !» va devenir le cri de ralliement des manifestations de protestation contre les violences policières et le racisme à travers la planète. Or, un homme posait un jour cette question à Jésus. « Qui est mon prochain ?» Il semble bien que ce policier n'ait pas envisagé George Floyd comme son prochain. Quelle serait l'attitude de Jésus dans un tel cas? L'histoire qui suit peut être très instructive. Écoutons Clin d'œil de vie, une réflexion de Simone inspirée de la Bible et de ses expériences personnelles.
Une parabole rabbinique rapporte qu'un vieux maître demanda un jour à ses disciples quel signe concret pourrait déterminer avec précision le moment exact où la nuit se termine et où le jour commence. Quand on peut distinguer à distance un olivier d'un figuier, demande l'un d'eux. Non, ce n'est pas cela, répondit le rabbin. Quand on peut de loin distinguer une chèvre d'un mouton? Non plus. Alors quand? Quand, en regardant le visage de n'importe quel humain, tu reconnais en lui ta sœur ou ton frère, c'est que le jour s'est déjà levé pour toi, répondit le maître. Jusque-là, dans ton cœur, c'est encore la nuit. Pour cet officier de police de Minneapolis, George Floyd, un homme noir, n'est certainement pas son frère en humanité. En 8 minutes 46 secondes, son genou appuyé puissamment sur le cou du captif, qu'il maintient à plat ventre à terre, il va l'étouffer. La victime exprime sa détresse à plusieurs reprises. « S'il vous plaît, je ne peux pas respirer. » À côté, trois autres policiers veillent sans réagir, après avoir aidé à l'arrestation. La scène est filmée sur son téléphone par Mrs. Frazier, de passage dans cette rue. Elle est badaud, les apostrophes. Vous allez rester assis là avec votre genou sur le cou? Un spectateur insiste. Vous l'avez mis à terre, laissez-le respirer. Les images vont envahir les médias. I can't breathe. « Je ne peux pas respirer » va devenir le cri de ralliement des manifestations de protestation contre les violences policières et le racisme à travers la planète. Ce fait réel douloureux m'a fait penser à une autre histoire de prochain, racontée dans la Bible par l'évangéliste Luc au chapitre 10 de son évangile. La question posée par le docteur de la loi à Jésus est d'importance. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Le mot hériter est bien choisi, car la vie éternelle est en effet l'héritage que Dieu veut offrir à ses enfants. Cependant, d'emblée, le magistrat se trahit par l'emploi du verbe faire, car par ce verbe, il laisse entendre que, pour lui, le salut se gagne par des efforts humains, comme si chaque être humain était relié à Dieu par un programme informatique qui enregistre bons ou mauvais points et distribue récompenses et châtiments automatiquement, selon leur nombre. À force de tout regarder à travers le filtre de leur propre idée de la justice, ces hommes de loi avaient fini par légiférer à la place de Dieu lui-même. C'est à cause de cela que Jésus ramène son interlocuteur à l'essentiel. Qu'enseigne l'Écriture? La réponse du docteur de la loi est pertinente, inespérée. La loi de Dieu se résume par l'amour. L'amour de Dieu est l'amour du prochain. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Mais l'homme ne s'en tient pas à cela. Il interroge ainsi Jésus pour se justifier, dit le texte. Et qui est mon prochain ? Ayant écarté, comme le policier de Minneapolis, la définition « tout être humain est mon prochain » parce que, probablement trop général, trop idéaliste, les rabbins du temps de Jésus enseignaient que pour l'Israélite, seul un autre Israélite était son prochain. Mais même cette affirmation ne paraissait pas claire. Est-ce que l'homme était un prochain au même titre que la femme? Était-il également prochain le pharisien strict et le lépreux impur, le traître publicain ou la prostituée? Alors Jésus va lui répondre par une parabole, ce procédé génial qui ne prend jamais l'interlocuteur de front et lui laisse toute liberté de s'esquiver sans perdre la face. La parabole raconte une histoire concrète de bandits qui attaquent un homme sur le chemin qui va de Jérusalem à Jéricho. Comme cela devait arriver assez souvent dans ces lieux peu sûrs, ils lui volent tout ce qu'il possède, le roue de cou, et s'enfuient en le laissant nu et à demi-mort sur le chemin. Quelques instants plus tard, passe alors un prêtre, puis un lévite et enfin un samaritain. Les deux premiers passent de l'autre côté du chemin et s'éloignent. Le samaritain, précisons que le samaritain n'est pas le bon profil de prochain, car pas de pure race juive. Le samaritain donc, à la vue du blessé, est pris de compassion. Il lave les plaies du blessé avec du vin et de l'huile et les bande le mieux qu'il peut. Puis il l'installe sur sa propre monture et le conduit à une auberge. Comme l'homme est en mauvais état, il prend soin de lui pendant la nuit. Le jour suivant, il remet 2 deniers, ce qui est l'équivalent de 2 jours de travail, à l'aubergiste pour qu'il s'en occupe et lui dit « Prends soin de lui, est-ce que tu dépenseras en plus ? Je te le paierai à mon retour. » Si les bandits sont pour le voyageur l'exemple extrême de l'anti-prochain, comme ce policier le fut pour George Floyd, le prêtre et le lévite sont l'exemple parfait de non-prochain. Mais que ce soit clair, ceux-ci ne fuient pas par méchanceté. Ils suivent leur chemin parce que la loi interdit à tout membre du clergé en service de toucher un cadavre. Et la loi, c'est la loi. Leur dilemme est donc, est-ce que je peux courir le risque que cet homme meure dans mes bras, m'empêchant ainsi d'officier? Face au risque, tous les deux décident de ne pas s'engager, excluant d'emblée ce pauvre blessé de la condition de prochain. Et, paradoxe, cette même loi que le juriste venait de résumer devant Jésus d'une manière pertinente, en un double impératif d'amour, aimer Dieu et le prochain, devient le prétexte à 2 religieux pour précisément ne pas faire un geste d'amour envers quelqu'un dans une situation flagrante de vie ou de mort. Tout cela parce que des légistes ont ajouté des conditions sélectives pour définir qui aimait, alors que l'amour de Dieu, lui, est inconditionnel. Le Samaritain, lui aussi, a ses préjugés. Sa loi non plus ne considère pas le juif comme étant son prochain. Lui aussi pourrait trouver des excuses pour s'abstenir d'intervenir. Mais le récit rapporte que cet homme, à la vue du blessé, éprouve de la compassion. Selon la traduction que l'on pourrait donner, il se laisse émouvoir jusqu'aux entrailles. Et que, oubliant tout le reste, il s'occupe de cet étranger qu'en des circonstances normales, il n'aurait même pas salué. Lequel des 3 s'est comporté en véritable prochain de la victime des bandits ? Demande Jésus à l'homme de loi qui est venu l'interroger. Celui qui a eu compassion de lui, répond celui-ci. Il n'a pas prononcé le mot samaritain, cela lui aurait écorché la langue. Pour Jésus, cette réponse suffit, car elle sous-entend que la décision personnelle prise par l'homme, dans ce cas la compassion, l'emporte sur des questions de naissance, de race, de nationalité et de tout le reste. Ce blessé devient son frère en humanité. Alors lui dit Jésus, va, et fais de même. Alors, aujourd'hui, Jésus me dit, va, et fais de même.
C'était Clin d'œil de vie, une réflexion proposée par Simone.